Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La Terre, la planète. Oui, la Terre sur laquelle nous marchons. La Terre qui nourrit les plantes, les animaux et les hommes. La Terre grâce à qui les femmes deviennent fécondes, grâce à qui les champs deviennent féconds. Cette Terre qui ne refuse personne, cette Terre contre laquelle on ne peut se battre. Oui, la Terre sur laquelle les hommes et les femmes marchent, mais aussi la Terre sous laquelle, invisibles, sont les ancêtres. Et la Terre déesse, ou simplement assimilée à une divinité. La matinée des autres, le 19 juin 1984, donnait la parole à la Terre.
La Terre dit « Je suis la plus vieille ».
Autrefois, lors de la création, la terre était pure. La boule lancée par Dieu était de glaise pure. Mais la faute avec le chacal a souillé la terre. Et cette affaire a dérangé le monde. C'est pourquoi il a fallu le réorganiser. La terre qui est sortie des cieux et qui est descendue était une terre pure. Dans le lieu où elle s'est posée, elle a fait passer cette pureté comme dans tous les lieux défrichés. Dans tous les lieux où a gagné la culture, l'impureté a reculé.
La Terre dit « Je suis la plus vieille ». Une émission de Marie Scondé et Mireille Cross. Avec Jean Detier, architecte, France. Émile Ologoudou, sociologue, Bénin. Alphonse T, sociologue, Togo. Louis-Vincent Thomas, ethnologue, France. Zeini Moulaye, chercheur, Mali. Youssouf Gueye, chercheur, Sénégal. Bernard Desjeux, photographe, France. Babacar Doumbia, chercheur, Sénégal.
La Terre, il faut peut-être l'envisager dans un sens très large et dans un sens plutôt restreint. Dans un sens large, je crois que c'est la totalité de la nature. Et vous savez que les classifications, par exemple, des êtres et des choses en Afrique, imaginent un monde qui aurait la forme d'un homme et dont l'homme serait véritablement le centre. Il s'agit par conséquent d'un système de cosmologie qui est tout entier imaginé à l'image de l'homme, et qui, par là même, entretiendrait avec l'homme des rapports tout particulièrement étroits, dans la mesure où le monde est un langage qu'il faut pouvoir déchiffrer, avec bien sûr un certain nombre de lieux privilégiés. Et c'est précisément à propos de ces lieux privilégiés que nous pouvons retrouver le second sens qui est la terre elle-même, c'est-à-dire le lieu où les hommes habitent et qui est en même temps le domaine de la culture. Mais il est évident que la vision que les Africains ont de la terre va varier selon que nous avons affaire à des pêcheurs, à des chasseurs, à des cueilleurs, à des planteurs ou bien à des pasteurs. Mais les liens peut-être les plus étroits, les plus originaux et en même temps les plus intéressants à étudier pour l'anthropologue, ce sont les liens tissés entre la terre et, bien entendu, le cultivateur. Alors, sur ce plan, on peut dire que dans certains groupes ethniques, ces liens vont très loin, puisque la terre est effectivement apparentée à une divinité, c'est la terre-mère, c'est une véritable déesse qui est à la fois la fécondité, la richesse, le renouvellement et le lieu des métamorphoses les plus profondes. Mais il y a effectivement des déesses terres, on le retrouve par exemple dans des pays ou dans des ethnies comme chez les Lobi, les Luo, les Kikuyu par exemple, ou les Diola, ou bien les Baoulé, où la déesse acier est la forme symbolique, disons, de la fécondité. Ce n'est pas la terre elle-même qui est un dieu, mais c'est tout simplement le symbole de la richesse, de la fécondité, qui est ici exprimé par l'image de la terre. Vous voyez. Alors, à cet égard, il arrive effectivement qu'il y ait des liens étroits, par exemple, d'une part entre la terre et les ancêtres, de l'autre entre la terre, la mère et la femme, et ensuite entre la terre et l'élément de la culture.
Chez les Évées, la terre n'est pas une divinité. Il n'y a pas de rite de pacification proprement dit ou de prière adressée exclusivement à la terre dans toutes les communautés Évées. Chez les Évées d'Anglon, par exemple, certains rapportent que lorsqu'on prie, on donne l'impression d'adresser une prière à la terre. En réalité, cette prière est adressée aux ancêtres. Mais chez les Évées d'Agou, selon les autorités de la tradition orale, il existe bel et bien des prières et des rites que l'on exécute soit à l'intention des ancêtres, soit à l'intention des ancêtres et de la terre, soit exclusivement à l'intention de la terre. On reconnaît d'autre part à la terre un caractère sacré. Bon, la terre fait partie des choses qui symbolisent la vie. Elle nourrit les plantes, les animaux et l'homme. Dans la langue évée, on voit que l'homme s'appelle Amé. Mais le terme Amé désigne l'homme en général. Mais plus précisément, pour dire l'homme, en évée, on dit Amegbeto, dans lequel terme on trouve plusieurs choses. Mais, qui veut dire faire cuire. Bon, faire cuire quoi? Faire cuire, par exemple, la poterie. Mais Zé veut dire fabriquer de la poterie à partir de la terre. Mais Agba, c'est la même chose. Ce qui veut dire que dans le terme Amegbeto, on trouve une allusion à la terre. Tout part de la terre et retourne à la terre dans la mesure où l'on est traversé par la vie.
Eh bien, moi, je suis malien et quand on me parle d'un tel sujet, ça me fait penser automatiquement au bois, au Sénoufo et au Bambara du Mali, qui sont les hommes de la terre. Donc, au Mali, les Bambara, ils se disent volontiers les hommes de la terre, non sans un brin de fierté ou d'orgueil. Et il n'hésite pas à jeter sur la face de qui veut l'entendre. Nous ne vivons que par la terre et pour la terre. C'est-à-dire qu'il y a un lien sacré entre ces gens et la terre. Un lien d'abord entre les vivants et les ancêtres qui ont légué la terre. Et d'autre part, entre eux et les esprits que l'on appelle communément les génies de la brousse, qui en sont les vrais possesseurs.
Si nous prenons par exemple le thème de la culture, On peut imaginer toute une série de niveaux. Quand, par exemple, une population vient en un lieu nouveau, qu'il lui faut, par exemple, défricher des terres ou prendre des terres qui ont été jusqu'ici quelque peu délaissées par d'autres, il faut que celui qu'on appelle le chef des terres, par exemple, se concilie les divinités du lieu, qu'on appelle généralement les divinités chthoniennes. Il faut en quelque sorte que cette terre qui était jusqu'ici inconnue devienne connue, qu'on passe de la nature à la culture, et pour ça que l'on se concilie les puissances du lieu, d'où des sacrifices, d'où des liens étroits qu'il y aura avec la population qui existait là avant. C'est ce qu'on appelle par exemple chez les Dogons l'alliance carthatique, qui est le point de départ de parenté à plaisanterie, par exemple, les liens étroits qui existent entre les Dogons et les Bozos, voyez-vous. Les Dogons ont pris des terres que les Bozos ne cultivaient pas, mais il a fallu pour cela qu'ils se concilient les divinités de la terre, qui habitent la terre et qui appartenaient aux Bozos. Si maintenant, au lieu de considérer simplement l'acquisition de la terre, nous pensons par exemple aux semences, il est bien évident que lors des semailles, il y a toute une série de rites sacrificiels extrêmement importants qui, là encore, sont liés à la féminité, à la sexualité et automatiquement à l'eau. Je dis à l'eau parce qu'il faut réaliser toute une série de rites qui vont permettre à l'eau du ciel de tomber. On comprend très bien que des civilisations, par exemple, qui vivent de la riziculture, comme les Diolas de Casamance, aient besoin d'une importante quantité d'eau. D'où alors des divinités de l'eau, c'est-à-dire des autels dont les génies sont censés faire tomber l'eau, d'où le rôle d'un certain nombre de rois qui sont de véritables faiseurs de pluie, ce sont des rois grands prêtres faiseurs de pluie, d'où parfois de véritables processions, un peu à la manière des rogations chrétiennes, je pense au fameux Nioukou, les mythes des Diola au Casamance, au sud du Sénégal, où les femmes, car ce sont des femmes bien entendu, qui sont liées à l'eau, qui sont liées à la fécondité, et qui font de magnifiques processions en chantant et en suppliant les divinités de faire tomber l'eau du ciel. Donc il y a toute une série de rites pour que l'eau tombe, mais il y a aussi d'autres rites pour que, par exemple, le sillon soit fécond. Je pense à un exemple qui nous est fourni par les Massa, qui est un groupe ethnique du Cameroun, où le chef, le patriarche ou le chef de terre doit éjaculer et mettre son sperme dans un petit sillon qui d'ailleurs a la forme un peu d'un vagin féminin. Autrement dit, il y a ici une similitude entre le sperme et la fécondité de la femme et la fécondité de la terre. Puis il y a ensuite, bien entendu, toute une série de rites, de sacrifices pour que tout se passe bien, pour que la germination ait lieu, pour que la fécondation se fasse. Et une fois alors les récoltes assurées, il y a automatiquement des rites d'offrande, des rites de prémices où on remercie les dieux, les ancêtres d'avoir donné aux hommes leur nourriture. Alors donc, d'un côté, et tout particulièrement pour les populations qui vivent de la culture et de l'agriculture, la terre est bien entendu l'élément vital par excellence. C'est donc une divinité inséparable de la fécondité, de la richesse, de la vie.
Lorsqu'un homme, généralement un chasseur, découvre une zone giboyeuse ou fertile, il décide de s'y installer, il consulte un devin, quand c'est lui-même qui ne possède pas la science occulte, pour révéler l'identité du maître des lieux. Alors, il fait des offrandes, soit en aliment ou en animal, pour acquérir la faveur du génie, qui dans l'esprit de ces gens est le vrai propriétaire des lieux. Alors il se passe entre eux un accord tacite. Le premier explorateur, donc le chasseur, ou bien celui qui a découvert les lieux, peut donc commencer à débroussailler et à couper certains branchages pour installer sa hutte. Il devient donc aux yeux de ses semblables le propriétaire des lieux. Il faut aussi dire que son domaine s'étendra donc de cet endroit, c'est-à-dire là où il a élevé sa petite hutte, jusqu'aux abords immédiats des champs, des hameaux et villages voisins. Il n'y a pas de limite fixe, mais arbitrairement fixée, que les uns et les autres respectent. Tout autre arrivant, avant de s'établir sur les lieux, demande son accord et lui offre en contrepartie soit une modique somme et quelques noix de cola. Et ce don symbolique a pour but de sauvegarder le lien, parce qu'il ne faudrait pas que lui, intermédiaire, donne l'impression d'être le maître absolu des lieux en offrant gratuitement une portion ou bien un lopin à tout venant. La terre ne peut en aucun cas être l'objet de spéculation. On en hérite de père en fils. Et l'agriculture étant l'activité principale, pour ne pas dire unique chez les Bambara, on entoure le sol de soins particuliers. Après la récolte, on apportera des engrais, notamment ce sont des fumiers ramassés sur des tas d'ordures. On ramassera également les fonds des étables pour, selon les Bambara eux-mêmes, soigner la terre. Parce qu'ils se disent qu'avec la culture, on remue la terre, donc on blesse le sol. Et selon eux, c'est un terme très affectif qu'ils emploient pour dire qu'ils vont panser les blessures de la terre. Les Bambara traditionnellement paysans sont d'autant plus attachés à la terre que celle-ci leur offre tout, depuis leur habitat jusqu'à leur habillement, et sans compter la nourriture. Tout est donné par la nature, et même les instruments de travail, que ce soit le matériel aussi bien que le matériau, tout est fourni par la nature. Quand on prend l'exemple du tisserand, le métier est fait avec des éléments qui viennent directement de la nature. C'est du bois, c'est de la corde pour attacher, pour les lier, pour assembler les différents éléments. Et le matériau qu'il utilise, c'est du coton, c'est des fibres de coton, donc qui proviennent également des fruits de la terre.
Terre, condoléances, toi qui reçois cadavres frais, toi qui reçois cercueils frais, toi qui te gorges de sang frais, nous te blessons. Terre, condoléances.
Lorsque les ressortissants d'un village, les habitants d'un village constatent que leur village actuel ne leur convient plus pour des raisons multiples, la sécheresse, la mort précoce ou prématurée, les ennemis ou toute autre raison, eh bien, les sages du village délibèrent sous le patronage du chef et ils désignent quelques hommes qui s'en vont chercher une nouvelle terre d'installation. On choisit donc ce nouveau terrain. On fait venir le grand prêtre du village ou un géomancien, celui-ci est requis, pour demander à la terre si elle est d'accord qu'on construise le nouveau village sur elle. Et le géomancien reçoit un présent qui est fait de farine de maïs et de l'huile rouge cuite ensemble qu'on appelle akplegé et mélangé avec des œufs cuits durs. Il s'en va à l'emplacement choisi et se promène et s'arrête à un endroit, fait faire une butte, comme pour y planter de l'igname, mais cette butte va servir d'autel sur lequel on va répandre l'offrande à la terre. Et il va prononcer des prières aux ancêtres pour leur expliquer pourquoi on quitte l'ancien village et qu'on s'installe dans le nouveau, etc. Et ensuite, une prière au dieu du village, et ensuite, une prière à la terre elle-même. Et à chaque fois, le géomancien porte dans ses mains une calebasse contenant du vin de palme qu'il verse goutte à goutte par terre et finalement en prend une gorgée et fait une libation. Une fois que cette prière est adressée à la terre, On lui demande maintenant explicitement de dire comment il reçoit les koris. Les koris, ce sont des instruments du géomancien pour interroger la terre. Dans certains cas, c'est quatre koris. Dans d'autres cas, c'est véritablement la cérémonie du grand Fa qui détermine. Mais plus simplement, on prend quatre koris et on jette les koris par terre. Après, d'avoir dit à la terre, terre, dis-nous si tu es vraiment d'accord qu'on s'installe sur toi et qu'on vive en paix avec beaucoup d'enfants, de richesses, etc. Il jette les koris par terre. Si quatre koris se retrouvent sur le ventre ou quatre sur le dos, c'est que la terre est d'accord. Si deux se retrouvent sur le dos et deux sur le ventre, eh bien, ça veut dire que la terre est d'accord, mais que une divinité ou un ancêtre s'y oppose encore. Les sages délibèrent, essayent de voir si le rituel, dès le début, a été exécuté correctement, si on n'a pas oublié un ancêtre, si on n'a pas oublié un dieu dans la prière. Et on vérifie et on recommence la cérémonie jusqu'à ce que les dieux soient satisfaits. Ensuite, si on se retrouve avec un seul kori sur le dos et trois autres sur le ventre, ça veut dire que la terre refuse catégoriquement de recevoir le village. Le géomancien fait une prière spéciale et recommence l'opération trois fois. Si on retrouve la même situation, eh bien, on renonce purement et simplement à l'installation du village sur la terre. C'est ainsi que la terre discute avec les hommes pour recevoir le village ou ne pas recevoir. Mais dans le cas où, dès le premier jet, on retrouve la situation, la première, c'est-à-dire les quatre koris dans la même position, alors on procède à la création du village.
La terre dit, je suis la plus vieille.
Cette divinité est en même temps le lieu des métamorphoses. Alors, ce lieu des métamorphoses, c'est bien sûr la métamorphose de la graine. Et on pourrait ici se rappeler le rôle extrêmement important que la graine peut jouer dans toutes ces civilisations. La graine de riz chez le Diola, plus encore la graine de Fonio chez les Dogons, vous savez, qui est considérée comme l'analogue de Sirius, donc qui a un rôle cosmique fondamental. Et cette graine est telle que on peut estimer qu'il y a homologie entre la graine végétale et l'homme lui-même qui est la graine du monde. Les Bambaras disent que l'homme et la graine, c'est la même chose. Et vous savez que chez les Dogons, par exemple, un des éléments constitutifs de la personnalité extrêmement important, ce sont les graines, les huit graines claviculaires parce qu'elles logent dans les clavicules, et qui sont censées être les représentants des huit ancêtres primordiaux du peuple Dogon. Là, vous voyez déjà l'alliance, hein, c'est là que je voulais en venir, l'alliance entre la graine, donc l'homme, le végétal et l'homme, l'ancêtre et la constitution de la personnalité, et par conséquent la terre où c'est la graine, le lieu où la graine va germer. Alors, ceci explique pourquoi, par exemple, dès la naissance, et à peu près dans la quasi-totalité de tous les pays d'Afrique noire, l'enfant est posé directement sur le sol pendant au moins quelques secondes. Parce que, précisément, la naissance, c'est le lieu de la métamorphose, puisque l'ancêtre est revenu sur Terre, et par conséquent, il faut qu'il reprenne connaissance de la Terre. Mais c'est la même chose également qui va se réaliser si nous considérons la mort. Le cadavre est, dans la quasi-totalité des ethnies africaines, posé quelques instants à même le sol, avant d'être lavé, puis ensuite exposé, parce qu'il faut qu'il y ait contact avec la terre des ancêtres. Et on sait très bien que quand le cadavre est mis en terre, On estime que cette mise en terre est le lieu d'une véritable germination. Il est assez curieux d'ailleurs de montrer que il y a une sorte d'analogie entre ce que l'on pourrait appeler le linceul et le placenta. Le placenta est symboliquement le linceul dans lequel l'ancêtre est avant de venir sur terre. Et quand le bébé naît, bon, à ce moment-là, on enlève évidemment le placenta qui est remis dans la terre, alors que le bébé, lui, vient sur la terre. Eh bien, à la mort, cette fois, c'est le linceul lui-même qui symbolise le placenta. Et vous savez d'ailleurs qu'il y a des groupes ethniques dans lesquels le mort est placé dans une position fœtale, un peu comme le bébé qui va naître. Hein. Alors, le placenta linceul entoure le mort qui est mis en terre et c'est un véritable travail intérieur de métamorphose qui va se produire, qui est symbolisé par toutes les épreuves que le défunt devra subir, mais avant d'aboutir au stade d'ancêtre. Autrement dit, la terre est le lieu de germination des graines qui vont nourrir l'homme, mais c'est aussi le lieu de germination des hommes morts qui vont devenir ancêtres.
Avant l'introduction du christianisme en pays évé, l'enterrement ne se faisait pas hors du village. Chaque personne qui décédait était enterrée dans sa propre maison. De la même manière, lorsqu'un évêque meurt à l'étranger, on fait tout pour ramener le corps dans son village où il sera enterré parmi les siens, parmi ses ancêtres. Si, pour des raisons de climat, on ne peut pas transporter le corps, on transporte une partie de ses cheveux ou de ses ongles qu'on vient enterrer rituellement comme si on enterrait le corps même. Et plus encore, si le corps est déjà enterré parce que le décès a eu lieu trop loin de son village, on s'en va chercher du sable sur la tombe que l'on transporte dans son village et que l'on enterre dans son village. Ce souci est dû au fait que l'homme, où qu'il soit, quand il meurt, doit revenir dans sa communauté. Et pour rejoindre véritablement sa communauté, il faut être enterré dans le village. Donc, l'homme est lié à la terre. Selon les autorités d'Agou, plus particulièrement de certains villages comme Agou-Nyogbo, Agou-Agbetiko ou Agou-Aklolo, la terre ancestrale ne se vendait jamais. Et cela s'explique par ce qui avait été dit avant. Si la terre est ainsi mêlée à la nature de l'homme, ou bien à une compréhension des rapports entre l'homme et la terre, il est évident qu'il serait difficile de vendre une terre qui reçoit les ancêtres et un endroit où l'on doit nécessairement retourner pour retrouver ses ancêtres. Vendre la terre, donc, était considéré comme une violation d'un pacte des ancêtres avec la terre. Et cela est puni, d'après les croyances, par toutes sortes de malheurs, toutes sortes de maladies et la mort même. C'est pourquoi autrefois, en cas de difficulté financière, lorsque quelqu'un est débiteur envers un créancier, il préférait mettre en gage chez le créancier l'un de ses enfants pendant une période suffisante afin que ce dernier rembourse la dette en nature par le travail plutôt que de vendre une portion de sa terre pour aller rembourser cette dette. À la rigueur, il louerait quelques palmiers ou donnerait quelques palmiers aux créanciers à exploiter sur la terre pour récupérer sa créance. Jamais on ne vendait la terre. Mais aujourd'hui, la terre se vend parce que tout cela se désacralise petit à petit.
Chez les Diola, le forgeron aussi est détenteur d'un pouvoir. Il est détenteur du pouvoir du fer et du feu. Ce qui fait qu'une fois mort, on ne l'enterre pas tout de suite, même avec un certain rituel qu'on accorde aux autres Diola. Le forgeron mort, on l'arrose d'eau, puissamment, parce qu'il faut vraiment l'arroser, même après le lavage du corps, il faut le verser d'eau pour que le mort ne brûle pas la terre. Parce qu'il enterre comme ça sans être versé d'eau, sans éliminer le feu ou éteindre le feu qui est en lui-même, il risquerait de brûler la terre et la terre serait en fait aride.
Si je viens à mourir, c'est de toi que je dépends. Terre, tant que je suis en vie, c'est en toi que je mets ma confiance. Terre qui reçoit mon corps.
Les populations du Kenya, par exemple chez les Luo du Kenya, on distingue les hommes dessus la terre et les hommes dessous la terre. Ou les Diola diront également, il y a les hommes visibles sur la terre, il y a les hommes invisibles sous la terre. Eh bien, les hommes invisibles sous la terre, ce sont précisément les ancêtres. Alors, il y a donc ici un rapport extrêmement étroit entre la terre, qui est le lieu des ancêtres, et ce sont les ancêtres qui, à la fois, font que les femmes deviennent fécondes, et que les champs deviennent féconds. Chez les Sara du Tchad, par exemple, il y a une opposition que je trouve très belle. D'un côté, entre la jeune fille vierge, par exemple, la terre inculte et la nourriture brute. Et à cela s'opposent les femmes enceintes, les femmes, par conséquent, fécondes, la terre qui est cultivée et la nourriture cuisinée. Eh bien, ce qui fait l'articulation entre les deux, mais déjà l'alliance entre le fruit, la cuisine, la nourriture, la femme et la terre, eh bien, ce qui fait l'articulation entre les deux, c'est précisément le monde des ancêtres. Alors voilà, très, très rapidement esquissé, si vous voulez, le rôle important que la terre peut jouer dans les civilisations africaines traditionnelles, soit qu'elle-même, d'une manière symbolique, devienne une entité, une divinité, ce qui malgré tout est quand même le cas le plus rare. Mais attention, il ne s'agit pas ici d'un naturalisme étroit, d'une sorte de naturolatrie, ce n'est pas la terre en tant que terre qui est la divinité. Pas plus que quand le Mossi dit que Dieu c'est le soleil, ou bien quand le lobby dit que la déesse c'est la terre, ça ne veut pas dire que Dieu soit le soleil ou la terre, simplement que le soleil qui est aussi symbole de vie et la terre qui est également symbole de vie sont, disons, les représentants imagés de l'être divin, de la divinité suprême.
Voici la terre que Dieu nous a donnée. Nous sommes là. Nous te demandons de partager cette terre, de la rendre féconde comme le ventre de nos femmes, de la rendre riche pour remplir nos greniers. Que par le sang et le vin que nous t'offrons, la paix nous soit assurée, et la richesse et la force.
Les femmes jouent un rôle extrêmement important dans les rites agraires qui varient bien sûr selon les groupes ethniques, hein. Il y a toujours de profondes différences locales. Mais on peut estimer, si vous voulez, que si on veut parler d'une manière statistique, c'est très souvent la femme qui intervient dans les cérémonies d'imploration de la pluie, et surtout si il y a jusqu'ici échec, disons, des hommes, si les hommes intercédant auprès des ancêtres ou intercédant auprès des divinités de la pluie ne sont pas parvenus à faire tomber la pluie, à ce moment-là, c'est presque toujours aux femmes qu'il revient de réaliser les rites. Parce qu'il y a ici une valence aquatique de la femme qui est bien connue. Il y a toute une série de populations, par exemple, dans lesquelles le sang, le lait et le sperme sont analogues à l'eau et par conséquent jouent un rôle important dans la fécondité. Or, le lait, à ce moment-là, le lait maternel joue un rôle capital hein, dans de très très nombreuses ethnies. Il est même d'ailleurs le symbole de la parenté, le symbole de la continuité clanique. Alors les femmes donc interviennent dans les rites pour obtenir la pluie. Mais aussi, elles ont un certain nombre d'actions privilégiées. Généralement, ce sont elles qui font les semis, ce sont elles qui sèment et ce sont elles qui récoltent. Vous voyez, très souvent. Parce qu'il y a là les deux actes les plus importants, si vous voulez, de la fécondité. Alors c'est en ce sens qu'elle joue un rôle important dans les rites agraires. Pour le reste, ce sont évidemment les hommes, puisque toutes les sociétés africaines, même si elles donnent à la femme une place importante, sont quand même malgré tout, comme toutes les sociétés du monde d'ailleurs, des sociétés à valence masculine prépondérante. Mais la femme quand même... Alors, remarquez, elle continue après, même si ça se fait en dehors des rites religieux, elle continue après à avoir un rôle extrêmement important dans tout ce qui concerne la nourriture, c'est-à-dire le pilage, la cuisson et la préparation des aliments, parce que femme égale nourriture, la femme nourrit le bébé quand elle est dans son sein, elle le nourrit après avec le lait lorsqu'il est né, au même titre qu'elle nourrit le mari en cuisinant pour lui. Alors la fécondité ici nous met en présence de, un lien extrêmement étroit, terre, nourriture et femme. Alors terre, nourriture et femme, c'est peut-être les trois manières de parler de la vie. Il n'y a peut-être pas véritablement dans les religions africaines traditionnelles une place aussi importante donnée à un dieu providence comme dans le christianisme. Si, il y a des populations pour qui l'être suprême est malgré tout le père, mais notamment dans une grande partie des populations bantoues. Mais néanmoins, l'idée d'une divinité providence n'est pas du tout une idée fondamentalement négro-africaine. Je crois tout simplement que tout ce que je viens de vous dire, ce sont en définitive des constructions réalisées après coup par l'imaginaire collectif pour faire en sorte que la vie soit vivable. Et on sait très bien que la terre africaine n'est pas toujours une terre facile. Hein, il y a des sols arides, des sols qui s'usent très vite, il y a des sécheresses, il y a toute une série de difficultés graves qu'il faut vaincre, et la nourriture n'est pas nécessairement assurée, et c'est parce que précisément il faut assurer cette nourriture qu'on va essayer d'imaginer tous les procédés, aussi bien techniques, magiques que religieux, qui vont concilier ces forces de la nature. Alors, l'Africain, d'ailleurs, c'est en cela qu'on rejoint le système des classifications que tout à l'heure je vous disais. L'Africain imagine la terre peuplée de forces et ensuite va s'efforcer d'établir, à partir de ces classifications, toute une série de participations et de correspondances dans le monde. Alors, les principes de la classification, ce seront par exemple les éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Puis les points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest, auxquels on peut ajouter le haut, le bas, la droite et le gauche. Puis, par exemple, on joue un rôle important dans ces classifications, l'opposition entre le mâle et le femelle. Puis interviennent les parties du corps humain, la tête, par exemple, le tronc, les épaules, le ventre, les pieds, et ainsi de suite. Puis, les êtres sociaux, alors le chef, le sous-chef, le prêtre, le roi, le féticheur, et ainsi de suite. Puis, la répartition des plantes, et enfin, la répartition des animaux. Alors on peut, en partant de tous ces thèmes, imaginer un tableau de classification de ce monde dont l'homme occupe le centre, bien sûr, et par là même, il va y avoir des liaisons, des associations qui vont guider toutes les interventions de l'homme et vont éviter par là même les interventions mauvaises.
La terre, quand elle est profanée, peut se manifester sous la forme de la maladie, peut se venger des hommes sous la forme d'une maladie particulièrement meurtrière qui est identifiée avec la variole. Et on considère même que cette variole peut apparaître sous deux formes. La forme qui vous couvre complètement le visage et le corps, et une autre forme encore d'autant plus dangereuse que ça ne se manifeste que sous la forme d'une seule pustule. Et il paraît que dans ces cas-là, on meurt dans les heures qui suivent. Donc, c'est dire quand même qu'à un moment donné, le caractère meurtrier des épidémies de variole a été en quelque sorte sacralisé et c'est devenu un dieu particulièrement vénéré et qui a des avantages, qui a des privilèges particuliers. Et les privilèges de ce dieu variole, c'est par exemple ceci. Dans les couvents, donc, où on recrute les adeptes de Zapata, contrairement à d'autres dieux qui ne recrutent par exemple que soit des femmes ou des hommes, mais déjà d'un certain âge, Zapata peut recruter même les tout jeunes enfants. À partir de 4 ans, de 3 ans, on peut déjà être adepte de Zapata. Ça signifie que ce dieu-là peut recruter ses adeptes dans toutes les classes d'âge jusqu'à l'enfance, ce qui n'est pas, par exemple, permis pour les autres dieux. Les autres dieux, on attend quand même généralement l'adolescence pour vouer les gens à ce culte. Deuxièmement, vis-à-vis de la cour, d'une cour aussi susceptible que la cour d'Abomey, le grand prêtre de Zapata et les adeptes de Zapata pouvaient critiquer le roi, pouvaient, dans leur manifestation, parce que vous savez, les cérémonies des dieux, il y a d'abord l'aspect initiatique de la religion et il y a l'aspect aussi manifestation où on se montre le jour du tam-tam, ainsi de suite. Et au cours de ce tam-tam, les adeptes, qui sont censés être le dieu variole lui-même qui parle, peuvent justement proférer des critiques acerbes vis-à-vis de la tenue et la marche des affaires dans le royaume, ce qui est quand même un privilège extraordinaire pour la cour d'Abomey. Il y a aussi que les rites et les interdits de Zapata sont très exigeants, sont des plus difficiles. Et quand on voit le couvent de Zapata tel qu'il est, c'est un des couvents les plus dont l'architecture est encore plus compliquée que les autres cultes. Donc, voilà une deuxième conception du dieu, la terre, en tant qu'élément pouvant se venger et pouvant se venger sous la forme d'épidémie. Alors, le dieu Zapata, même dans les pays, comme à l'arrière-pays Fon et Yoruba, apparaît comme un élément essentiel du panthéon. D'autres dieux peuvent tomber, c'est-à-dire on peut ne pas retrouver dans tel ou tel contexte régional tel ou tel dieu, mais le Zapata est partout, dans la zone des Fon jusque dans le pays Yoruba. C'est un des cultes essentiels.
Si un homme a des rapports sexuels avec une femme dans la forêt, dans la brousse, dans une clairière, dans son champ, sur un sol nu, eh bien, on considère qu'il a souillé la terre et cette terre deviendra infertile pour toutes les cultures vivrières. À Agou, les autorités de la tradition orale nous ont dit à ce sujet que même l'homme et la femme qui commettent un tel acte à de tels endroits, eh bien, s'exposent à une maladie qui ressemble à la phlébite, le gonflement des membres, et cela peut conduire à la mort. D'autre part, si un homme se bat
avec sa femme. Par exemple, pour avoir des rapports sexuels et que la femme n'est pas consentante. Et puis que cette femme se bat et pousse l'homme jusqu'à le faire tomber du lit conjugal par terre, eh bien, cet homme est violé dans sa sacralité et il risque de devenir impuissant. Et il faut des rites spéciaux de propitiation envers la terre et envers le lit conjugal pour que cet homme échappe au risque d'impuissance.
Centre de la terre, voici ton eau. Rends la terre fertile pour mes semences. De tout bout de bois, délivre-nous. Du serpent mortel, délivre-nous. Sauve-nous de la sécheresse. Sauve-nous de la famine de misère. Que tombe la pluie fécondante. Que les labours soient productifs cette année. Que les cultures soient fécondes cette année.
Le désert, une maladie de la terre, je pense qu'on peut dire effectivement c'en est une, ce qui ne veut pas dire que le désert est forcément un terrain inhospitalier, sans vie, sans personne qui y habite et sans possibilité d'avenir. Quand on dit dans les journaux le désert avance ou recule de 40 km par an, on s'imagine qu'il y a un trait quelque part et qu'on déplace ce trait tous les ans. Pour donner un exemple précis, on avait la carte routière et on voulait aller au lac Tchad. Il se trouve que sur cette carte, le village, la ville de Ngingmi est dessinée au bord du lac. Parce que cette carte date d'il y a quelques années, enfin d'il y a 10 ans ou 15 ans. Et on est arrivé à Ngingmi, on a demandé où est le lac Tchad. Et tout le monde nous a rigolé au nez. En fait, le lac Tchad dans la partie nord est très peu profond et varie énormément de surface en fonction des crues et des décrues, suivant ses pluies. Et il se trouve que chaque année, il avait l'habitude de monter et de descendre. Et depuis une dizaine d'années, il n'est plus jamais remonté. Donc toute cette surface qui était régulièrement inondée, donc propice à la culture, propice à l'élevage, propice à la vie, se trouve en voie de désertification. Mais bien malin est celui qui peut dire 10 km, 20 km, 5 km par an. Ça, c'est des statistiques, c'est des formalisations. Mais concrètement, sur le terrain, on peut trouver des îlots de verdure en plein milieu du Sahara et des zones très, très sèches autour notamment des grandes villes sahéliennes qui sont en voie de désertification avec la cause bien connue de la déforestation. Tant qu'on fera de la cuisine au bois, les gens utiliseront donc du bois et le bois, la forêt ne pourra pas se renouveler et donc la végétation va disparaître et là le Sahara va gagner. Il y a un équilibre traditionnel de pâturage. Traditionnellement, si je prends l'exemple du Niger, il y a deux groupes d'éleveurs principaux. Il y a les Touaregs et il y a les Peuls, principalement les Peuls Bororo ou Anagamba. D'une manière tout à fait traditionnelle, il y avait un système de puits, un système de répartition des puits assez cohérent, qui était creusé soit par les Peuls Bororo, c'était leur puits à eux, soit par les Touaregs, c'était leur puits à eux. Avec les grandes sécheresses de 72, de 69, 73, on pourrait dire, parce qu'on a aussi simplifié, ça s'est pas passé en deux mois, les sécheresses aussi dramatiques, on a fait des forages, on a multiplié les forages. Donc ça a eu pour conséquence, autour de ces points d'eau, de surpâturage, donc plus de pâturage, donc sécheresse. On a cru bien faire en creusant, en donnant de l'eau, et en fin de compte, il y a eu des effets néfastes qui ont contribué à au ravage, on peut dire au ravage, comme une maladie. Des photos aériennes d'ailleurs sont assez significatives, on voit tout à fait autour des puits. D'ailleurs, quand on voyage au Niger ou au Mali, on s'aperçoit que plus on s'éloigne des villes, des centres urbains, des centres de concentration, plus il y a de la forêt. Et dès qu'on arrive à proximité d'un grand centre, c'est même un moyen de le savoir, il n'y a plus de bois sur le bord des routes. Et on trouve, quand on bivouaque le soir, on trouve des gros morceaux de bois quand on est très loin des campements et des centres urbains. Le Sahara vit avec la lumière. À midi, le paysage est complètement écrasé, complètement brûlé. Par contre, au matin, il fait frais et les ombres sont très longues. Donc, ça va donner du relief aux cailloux, ça va donner du relief aux dunes. Et très souvent, on aime beaucoup bivouaquer en dehors des oasis et en dehors des centres urbains. Et quand on s'arrête au pied d'une dune, le paysage change, n'est plus du tout le même du matin au soir. Comme je viens de dire, la lumière est très importante, la lumière, donc le soleil, donc la chaleur, les bêtes. Il existe toute une faune et une flore très spécifique au Sahara. Et la faune, il y a toute une faune de nuit qui ne sort que la nuit quand il fait frais. Il y a de la vie au Sahara, ça c'est une certitude, quoi. Alors il se trouve que cette vie, qui est quand même assez rare, prend une importance et une place énorme à partir du moment où on la voit. Un verre d'eau en Europe n'a peu d'importance, un verre d'eau en plein Sahara a une place importante et on a toujours tendance à cultiver un petit peu le paradoxe et à dire au Sahara il y a de l'eau. C'est vrai qu'il y a de l'eau au Sahara, qu'il y a... de très importants nappes phréatiques au Sahara et que l'Algérie en ce moment fait des forages fantastiques pour irriguer le Sahara, pour améliorer les oasis, c'est très frappant à Timimoun. Il y a tout un système de Fogaras qui est un système assez ancien qui a été fait par les anciens pour récolter au mieux l'eau. Et il y a en permanence de l'eau qui coule, une source qui coule en plein Sahara avec un peigne, c'est-à-dire un système qui permet de répartir l'eau entre les différents jardins. Alors on appelle ça un peigne parce que c'est en terre et il y a des petites cavités qui... c'est comme les doigts d'une main, comme si on mettait les doigts d'une main dans une rigole et l'eau s'en va dans chaque ségia qui alimente chaque jardin. Et cette eau coule en permanence et on est en plein désert à Timimoun, en plein Sahara, en permanence. Alors dès qu'il y a de l'eau, dès qu'il y a de la chaleur, dès qu'il y a des hommes, il y a de la vie. S'il suffisait de creuser un puits pour qu'il n'y ait plus de désert, il y a longtemps qu'on aurait creusé plein de puits. En fait, il y a un petit peu, à propos du Sahara, c'est peut-être le mot qui convient, il y a deux mirages. Il y a l'eau et le soleil. L'eau et le soleil peuvent régler beaucoup de problèmes, mais ne peuvent pas régler tous les problèmes. Et sinon, il y a quand même une tradition, moi je suis tout à fait pour regarder la tradition, et si les gens ont des problèmes, il faut voir pourquoi ils ont des problèmes. Et s'ils n'ont pas construit de puits, il y a peut-être une raison. Et quelles sont ces raisons? Quand on fait des forages à grande... quand tout d'un âge phréatique, la nappe phréatique n'est pas une nappe qui se renouvelle, on risque... ou les nappes fossiles, encore pire, ça. Non, la nappe phréatique se renouvelle. Quand on tape avec des forages, avec des moyens assez sophistiqués, on touche la nappe fossile, on a de l'eau, bien sûr, on peut même mettre une pompe solaire, ça fait très bien et c'est tout à fait sympathique, mais c'est quand même une technologie assez sophistiquée qui risque de tomber en panne, donc on risque de créer des besoins qui vont plutôt aller à l'encontre de ce qu'on cherche, plutôt que le résultat que l'on souhaite. Je voudrais citer un exemple dans le massif de l'Aïr, qu'on connaît un petit peu, où vivent essentiellement des Touaregs. Il y a les Touaregs Keloui, qui sont éleveurs, jardiniers, caravaniers. Et ces gens-là ont réussi par leur mode de vie à trouver un équilibre qui dure depuis très longtemps et qui fonctionne assez bien. Il y a des équipes de développement, beaucoup de Belges, je crois, qui ont, plutôt que d'introduire des pompes très sophistiquées, des projets d'hydro agricoles très sophistiqués à grand renfort d'argent, ont simplement aidé les Touaregs à bétonner les puits qui étaient emportés à chaque fois qu'il y avait une crue et à canaliser un petit peu l'Oued de manière à diriger l'Oued vers les nappes d'eau qui alimentaient les puits. Moyennant quoi, la productivité des jardins de l'Aïr est tout à fait exceptionnelle par rapport aux coûts employés. On a ici utilisé des moyens très simples, on a résolu des problèmes très compliqués avec des moyens très simples. Et c'est souvent la simplicité des moyens, parce que les gens concernés étaient d'accord et avaient accepté ces projets, que ça n'a pas été imposé, et que c'était dans la logique de leur système de vie, dans la logique de leur tradition, que l'Aïr produit énormément de légumes. Il faut voir en plein Sahara des oignons, des tomates, des pommes de terre, de l'orge, du blé, des champs de blé tout verts. Oh, bien sûr qu'ils ne sont pas des champs très spectaculaires comme en Beauce, mais on arrive à faire plusieurs récoltes par an. Là, je reviens d'Algérie, on fauche le blé, on fait plusieurs récoltes. Le blé, tout d'abord, pousse en grain, on l'utilise comme céréales, et après, on l'utilise comme fourrage pour le bétail. Tout ça pour dire que les problèmes de la désertification, les problèmes de la terre, les problèmes de la maladie de la terre, qui sont des problèmes très compliqués et avec des enjeux financiers considérables. On revient d'Algérie, je serais prêt de dire que l'Algérie est le plus grand chantier du monde. L'Algérie met des moyens énormes pour domestiquer le désert, etc. Les résultats les plus efficaces peuvent se faire avec des petits moyens. Et qu'il n'existe pas une solution pour soigner cette maladie de la terre, mais qu'il existerait plutôt une multitude de petites solutions en fonction des gens qui l'habitent. Les Touaregs de l'Aïr vont régler leurs problèmes à leur manière, d'une certaine manière. Les gens du Sahel, les Toubou dans le Tibesti vont régler d'une autre manière. Les Chamba, qui sont des éleveurs en Algérie, vont régler d'une autre manière. Et qu'à chaque terrain, à chaque culture, à chaque partie du désert qui est si variée, peut correspondre une multitude de solutions.
Terre dit, je suis la plus vieille.
On n'a pas l'impression, dans les cosmologies africaines, qu'on s'interroge beaucoup sur ce qui se passe au-dessus et ce qui se passe en dessous. Enfin, disons grosso modo que ce qui se passe au-dessus, c'est généralement le monde des divinités, hein, avec conseil évidemment de se concilier par les sacrifices, et en dessous, c'est généralement le monde des morts, et des morts qui ne sont pas encore véritablement devenus ancêtres. Mais je ne pense pas que ce soit dans le sens de la verticalité que se pose l'opposition, l'opposition entre ce qui est civilisé et ce qui est non civilisé, c'est plutôt sur un plan horizontal.
Au fond, la source de la civilisation, le premier conditionnement est évidemment la terre. D'abord, on trouve dans les proverbes que la terre ne refuse personne, qu'on ne peut pas se battre avec la terre et qu'on ne peut, par exemple, pas prendre la terre sur sa tête. Donc la terre s'impose d'abord comme élément de permanence, comme élément qui s'impose non seulement pas par sa surface, sa longueur, mais aussi par son poids. C'est quelque chose qui pèse, et à partir de là, on ne peut pas le soulever. Beaucoup de noms forts partent de cette conception, de cette première appréhension de la terre en tant qu'élément pesant et qui reçoit pratiquement tout le monde. Par exemple, l'exilé pleure pour sa patrie qu'il a délaissée, mais se rend quand même bien compte que partout, on pourra l'accueillir, pourvu qu'il y ait de la terre, on l'enterrera, et que si on ne peut pas transporter son corps au pays natal, il pourra être enterré là où il meurt. Et j'évoque cette idée parce qu'elle est très importante dans la conception que les gens ont le long de la côte. En définitive, leur patrie, c'est là où ils se sentent bien. Ils avaient une conception en quelque sorte romaine déjà de la patrie, ce qui explique les migrations. Et les migrations, c'est quoi? Les migrations, c'est que pour peu que on puisse emporter la terre de son pays et qu'on peut, au point d'arriver, enterrer cette nouvelle terre, on se retrouve sur sa terre. Et cela a joué même dans les migrations des Noirs, n'est-ce pas, dans les Caraïbes et aux États-Unis. Donc la terre est un élément universel où on se dit partout, pourvu qu'il y ait terre, là où on va, on se sent bien.
Situé à cheval sur le Niger, Gao est la capitale de la 7e région économique et administrative de la République du Mali. Mais avant tout, Gao est une coquette cité en terre battue, c'est-à-dire en Banco. Fondée vers 690 après Jésus-Christ, d'après Maurice de la Fosse, mais plus vraisemblablement vers la fin du 6e siècle selon Félix Iroko, elle fut capitale de la dynastie des Dja, des Soni, des Askia. Cœur de l'empire Songhai dont elle a souvent porté le nom, elle fut pour cette raison la cible de toutes les convoitises visant cet empire. Sa conception architecturale n'est, à mon avis, pas due au hasard. Elle est née d'une influence culturelle, car Gao est à la croisée des chemins. À l'intersection des pistes sinueuses du Sahara et des ondes du fleuve Niger, elle est l'aboutissement et le point de départ de longues et nombreuses caravanes, de chameaux ou de camions. La ville par excellence où se rencontrent la pirogue et le chameau. Du nord viennent généralement des produits manufacturés, des étoffes, du thé, du sucre, du tabac prisé, des dattes, etc. Et du sud arrive l'or, l'huile de palme ou de karité, des céréales. Mais cette circulation des biens et des valeurs ne va pas sans une circulation des idées. C'est dans ces marchandises de commerce que l'on trouve très souvent des livres véhiculant une idéologie, une culture. Il semble que ce soit plutôt sous le règne d'Askia Mohamed, des Askia de façon générale, disons un règne qui a duré un siècle, 1492-1591, donc jusqu'à l'envahissement, ou l'invasion plutôt du Songhai par les troupes marocaines. Il semble donc que ce soit sous le règne des Askia qu'il y ait eu un développement prodigieux, disons, de la culture dans cette cité, grâce notamment à un développement d'abord de l'islam et de la culture arabe. Carrefour de civilisation, Gao est un point de rencontre de trois cultures. Pour les nommer dans un ordre alphabétique, il s'agit de la culture arabe, berbère et songhaï. Ces trois cultures s'y sont épanouies, parfois dans une symbiose qui étonne plus d'un passant. Et un des fleurons de cette symbiose est le tombeau des Askia. L'ouvrage a été probablement édifié grâce à une main-d'œuvre songhaï, pour être une sorte de creuset de la culture islamique, en tout cas un haut lieu de communion en une foi qui est aujourd'hui universelle, qui est l'islam, puisque cet ouvrage est une mosquée, un tombeau et une mosquée à la fois. Et faut-il rappeler que cette mosquée bâtie en 1325 est en Banco. Le Banco est composé d'une substance argileuse qui en constitue la matière première, cette substance est recueillie au bord du fleuve ou alors au bord des marécages ou simplement à la place d'une mare desséchée. À cette substance première qui est de l'argile sont ajoutées beaucoup d'autres matières allant des bouses de vaches aux brindilles de roseaux. En passant par des feuilles mortes d'arbres, le sang des céréales pilées, l'eau sale de ces céréales auparavant lavées. Mais les détritus d'enclos des animaux domestiques tels les caprins, les ovins, les ânes, les chevaux sont particulièrement appréciés parce qu'ils contiennent en somme toutes les matières déjà citées. Il arrive parfois de trouver sur un monticule d'argile un vieux matelas fourré de feuilles de roseau ou de palmiers finement taillés et séchés. Tous ces détritus sont pétris avec l'argile après une longue période pendant laquelle plusieurs substances auront perdu leur résistance au point de n'être pour l'argile que ce qu'est la levure pour la farine du boulanger, c'est-à-dire un ferment. Après une période de fermentation, intervient le pétrissage, 2 à 3 fois selon la nécessité, et l'adjonction à cette argile et aux substances qu'elle contient, l'adjonction de sable fin. À partir de ce moment-là, le banco est à disposition pour diverses utilisations, allant du modelage des briques à l'édification d'ouvrages, en passant par le terrassement d'un intérieur, le crépissage d'un mur ou d'une toiture. Mais les briques, comment sont-elles conçues? Elles sont généralement conçues dans des moules rectangulaires de dimensions variées, parfois 30 cm sur 15, d'autres fois 40 cm sur 20. Le banco est entassé dans le moule, à même le sol, puis on soulève le moule. La brique ainsi obtenue est laissée à sécher. Elle pourrait ensuite servir à la réfection des murs défaillants, à l'édification d'un ouvrage quelconque. Les briques sont modélées généralement soit par des maçons, qui sont à la fois briquetiers et architectes, soit par des particuliers ayant généralement des relations avec la caste maçonne. Enfin, ces briques peuvent être séchées et conservées pendant une très longue période, pendant toute une éternité si on le veut. Elles peuvent être transformées en banco pour être utilisées une seconde fois, ou alors carrément employées par exemple pour un terrassement. Ce terrassement peut être celui d'une pièce ou d'une toiture. Si c'est celui d'une pièce, par exemple, la pièce est généralement vidée de tout le sable qu'elle pourrait contenir et le terrassement est fait à la main ou à la truelle. Mais la truelle est plus souvent employée pour le crépissage de l'intérieur ou de l'extérieur des murs. Car si le banco ne craint ni le vent, ni le soleil, ni la lune, il résisterait difficilement aux moindres gouttes de pluie. La substance la plus vulnérable du banco est le sable fin qu'on y ajoute souvent. À la suite des saisons de pluie qui durent 3 mois à Gao, de juillet à septembre, mais pendant laquelle il y a rarement plus de 5 bonnes pluies, il arrive que des ouvrages se désagrègent, que pour citer Balzac, d'énormes lézardes sillonnent les murs et que de fissures fines et capricieuses fassent tordre de joie les lézards et autres margouillas. Il y a à Gao un style architectural qui se rencontre aussi bien dans le vieux quartier résidentiel des anciens monarques et autres caïdes que dans les quartiers modernes tels Djoulabougou ou Gadei. Les maisons gaouaises sont généralement conçues avec un vestibule, une vaste cour, des toilettes à l'air libre isolées dans un coin de la cour, une véranda, une ou plusieurs pièces intérieures. À voir ce style sans cesse renouvelé, on penserait un tout petit peu que les maçons architectes de la ville sont à court d'idées ou font à tout le moins preuve de peu d'innovation. En vérité, cette conception architecturale qui a résisté au temps et aux idéaux de beauté, c'est-à-dire aux modes, répond à un mode de vie, à un environnement. Ce mode de vie, c'est celui des grands espaces, propre à une population qui est agropastorale. Et l'environnement, lui, est semi-désertique à Gao. Depuis très longtemps déjà, il n'a pas changé. Le désert gagne, hélas, chaque jour un pas sur la savane. Mais jusqu'à quel degré? Laisserait-on Gao à la merci de la désertification? En tout cas, la ville, elle, est là, presque indifférente au temps. Et vue du hublot d'un avion, elle présenterait une chaîne de blocs carrés tracés comme à l'équerre. Elle livre ses larges avenues et ses grands boulevards. Elle paraît généralement coquette, mais sans éclat. Mais sa beauté frappe encore le passant. Le visiteur, lorsqu'on considère le cadre naturel dans lequel elle baigne, au nord et au sud, elle est bordée de palmiers doum, à l'est, de mimosas et autres acacias, à l'ouest, elle est limitée par le fleuve Niger. Mais comme pour indiquer un peu la proximité du Sahara, une chaîne de dunes de sable rose surplombe le fleuve, offrant ainsi un paysage d'une beauté fascinante. Ces dunes, dont la plus haute est celle de Koima, attestent que Gao est la porte du désert. Mais le fleuve est là pour faire oublier aux voyageurs l'image hallucinante du Sahara, fort bien décrite par Pierre Benoît de l'Académie française dans l'Atlantide. Et dans cet ouvrage en particulier, il parle de Gao comme étant la ville d'une délivrance par rapport au désert. Enfin, on en dira un jour qu'elle aura eu ses maisons en banco, c'est-à-dire en terre battue, des maisons aux vastes cours et aux modestes intérieurs. Mais les futurs pavillons et autres immeubles respecteront toujours son architecture, car, porte du désert, les vastes espaces que laisse voir sa conception architecturale font d'elle en vérité une cité ouverte au moindre vent, à la moindre brise, au moindre zéphyr. Cette ouverture est aussi la marque de ses habitants. Et pour tout dire, la grandeur de sa cour fait qu'il y a toujours de la place pour le méhariste attardé et pour l'automobiliste de passage. Le visiteur y est toujours le bienvenu. Et lorsque sur le pas de la porte rarement fermée, l'hôte lance le salam alaik ou le bonjour, il est sûr de trouver dans la cour comme à l'intérieur suffisamment de place pour être à l'aise. Là comme ailleurs, la terre est un abri. La cité protège l'homme.
L'architecture en terre crue existe depuis très longtemps, construit avec ce matériau depuis plus de 10 000 ans, sur les 5 continents. Pratiquement, on en trouve des témoignages dans tous les pays. Et ce matériau très ancien était tombé un petit peu en désuétude, aussi bien dans certains pays du tiers-monde que dans les pays occidentaux. Et puis brusquement, il y a eu en 1973 la crise de l'énergie, qui oblige tous les pays à trouver des formes d'architecture qui consomment moins d'énergie. Moins d'énergie pour les construire et moins d'énergie pour les chauffer ou les climatiser. Et il se fait que la construction en terre crue a des qualités thermiques très remarquables qui permettent une climatisation naturelle, c'est-à-dire de faire très simplement des bâtiments dans lesquels il fait frais quand il fait chaud dehors et inversement où il fait chaud quand il fait froid dehors. Donc ça, c'est une des qualités de départ qui est liée à la crise de l'énergie et qui peut se chiffrer financièrement d'une manière précise et susciter pour l'usager comme pour l'État des économies considérables sur le plan budgétaire. Mais il y a d'autres raisons qui expliquent ce regain d'intérêt pour l'architecture en terre, qui sont des raisons culturelles ou même parfois religieuses. Aussi bien dans le tiers-monde qu'en Occident, une fois de plus, il y a, je dirais, un ras-le-bol général à l'égard du style international d'architecture qu'on nous a imposé à tous depuis 50 ans. Et partout, de manière très diverse évidemment, on assiste à un phénomène culturel qui consiste à essayer de retourner aux sources et de concevoir une architecture et des formes d'habitat mieux adaptées aux spécificités locales ou nationales, aux cultures régionales et aux aspirations des usagers. Alors, c'est vrai partout dans le monde entier. Le style international d'architecture est mort. On parle maintenant d'un style postmoderniste. Bon, il y a différentes étiquettes pour l'appeler, peu importe. Mais en tout cas, partout, il y a ce courant, cette volonté de rompre avec des stéréotypes internationaux qui sont perçus par les usagers comme une espèce d'agression contre leur culture, contre leur personnalité, contre le génie local propre à quantité de régions. Et donc ce mouvement a entraîné la reprise en compte, la reprise en considération des traditions régionales, mais aussi parfois des matériaux locaux. Et puis il y a aussi des raisons politiques et économiques, parce que le matériau terre est pratiquement le seul au monde qui échappe au système capitaliste. C'est-à-dire que quand vous avez un terrain et que dans cette région le sol est propre à la construction, parce qu'on peut construire dans beaucoup d'endroits en terre mais pas avec n'importe quelle terre. Donc quand vous avez un terrain et que la terre est propice à la construction, ben vous avez le matériau en prime, il est gratuitement sous vos pieds. Donc vous n'êtes pas lié à l'achat à une firme, à une entreprise ou à une multinationale de matériaux de construction. Ce qui, dans les comptabilités économiques des États, est très très important. Le cas le plus célèbre, c'est une ville qui est au sud Yémen, qui s'appelle Shibam, qu'on appelle d'ailleurs le Manhattan du désert. Tous les immeubles ont 6 ou 7 étages de haut. Mais ce genre de choses peut sembler exotique et pourtant c'est faux. On trouve la même chose en Europe. Je viens de visiter la semaine précédente en Allemagne une ville qui s'appelle Weilburg, près de Francfort, où on trouve des bâtiments de 6 étages construits en terre au 19e siècle et qui sont en parfait état. Et c'est aussi un des préjugés qui existe, c'est de croire que la terre peut être utilisée en Afrique dans les pays secs, mais qu'elle ne résisterait pas à la pluie, ce qui est totalement faux, comme le prouve cet exemple. Et il y a d'ailleurs en Europe un énorme patrimoine architectural en terre, depuis la Scandinavie jusqu'à l'Espagne. Et en fait, si on continue la coupe géographique, on s'aperçoit que depuis le Danemark, l'Allemagne, la Hollande, la France, l'Espagne, l'Italie, le Maroc, l'Algérie, le Mali, le Nigeria, le Cameroun, le Zaïre, on va jusqu'en Afrique du Sud, c'est-à-dire que de l'extrême nord à l'extrême sud de la planète, on trouve des exemples anciens et actuels d'architecture en terre tout à fait convaincants et qui s'adaptent à tous les climats et aussi à tous les besoins sociaux différents. Parce que cette architecture, elle est aussi bien le fait des classes sociales modestes que des classes bourgeoises traditionnellement. Maintenant, si on parle d'actualité, bon, il existe dans beaucoup de pays d'Afrique des programmes d'habitat ou de construction moderne, construits récemment, disons depuis la Deuxième Guerre mondiale, et qui sont aussi tout à fait convaincants. Le premier architecte africain à avoir eu un rôle de pionnier dans ce domaine est Hassan Fathi, un architecte égyptien, qui a construit à partir de 1945 un village qui est mondialement célèbre, qui s'appelle Gourna, qui était, à mon avis, le premier manifeste émanant d'un architecte africain et qui exprimait la volonté philosophique et matérielle de prendre en compte les traditions populaires de son pays, de se débrouiller avec les matériaux locaux et de ne plus être donc sous la dépendance culturelle et économique de l'Europe ou de l'Occident. C'était donc historiquement un jalon très important en ce sens. Hassan Fathi a eu beaucoup de disciples dans le monde entier, aussi bien en Afrique que dans les pays occidentaux. Il a écrit un livre très remarquable qui s'appelle « Construire avec le peuple », publié à Paris aux éditions Sinbad et traduit dans de nombreux pays depuis lors. Et bon, ses disciples ont construit dans beaucoup de pays et on voit les témoignages à travers toute l'Afrique. On peut par exemple évoquer ce centre de santé, cet hôpital qui a été construit il y a 5 ans à Mopti, au Mali, par l'architecte français Ravro et l'architecte belge Philippe Loers, avec, dans le cadre de des programmes de techniques financés par le Fonds européen de développement. Bon, cet hôpital, je voulais dire d'abord, l'hôpital, c'est bien un des symboles de la modernité, du progrès, de l'hygiène, etc., par définition. Et c'est donc très intéressant de voir que ce bâtiment a été construit en terre. Ce n'est pas le seul. Il y en a un qui a été construit en 1947 dans le Sahara en Algérie, à Adrar, qui est en parfait état, que j'ai visité l'année passée. Et il y en a un autre qui va être construit très bientôt en Mauritanie. Bon, ça, ce sont des hôpitaux. Au Maroc, par exemple, avec la contribution du gouvernement, on a construit, il y a une dizaine d'années, une extension de la ville de Marrakech, un quartier de 3200 logements d'habitat social, qui ont été d'ailleurs réalisés en autoconstruction par les usagers, et qui était une des plus grandes opérations en termes quantitatifs menées en Afrique. Il existe aussi, par exemple, aux États-Unis, une remarquable tradition de l'architecture en terre, où des villes entières sont construites avec ce matériau. On imagine difficilement, d'Europe ou d'Afrique, qu'on puisse trouver des villes construites avec ce matériau si simple aux États-Unis. Et pourtant, la capitale de l'État du Nouveau-Mexique, dans le sud-ouest des États-Unis, est construite très largement en terre. Elle a été fondée par les Espagnols au XVIe siècle, et il y subsiste quantité de bâtiments de cette époque et quantité de bâtiments modernes. C'est là qu'on trouve le plus vieux bâtiment public américain, qui est le palais des gouverneurs espagnols. C'est là qu'on trouve les plus vieilles maisons des États-Unis. C'est là qu'on trouve la plus ancienne église américaine aussi, toujours construite en terre.
La terre dit « Je suis la plus vieille ». Une émission de Maryse Condé et Mireille Cros. Texte lu par Sonia Emmanuel, mixage Marie-Dominique Bougot et Jean Frédérics.
Avant la naissance du monde, nous avons habité le ciel, l'autre versant de la mort. Paradis est le seul pays dont nous nous souvenons. N'eût été l'ivresse de nos rêves monocordes et la lassitude d'habiter l'espace, terre n'aurait jamais été notre lieu d'exil.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 juin 1984. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.